Bonjour à tous et bienvenue dans le 8.30, un 8.30 un peu particulier aujourd'hui puisque nous allons ouvrir le débat. En tout cas, c'est plutôt le gouvernement qui a ouvert le débat, à savoir la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, qui souhaite légaliser l'assistance sexuelle des personnes handicapées. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet avec plusieurs invités autour de la table. Et exceptionnellement, eh bien, je suis au sein de l'Association des paralysés de France du côté des Hautes-Alpes, route des Essanières à Gap. Avec nous aujourd'hui, Cédric Carotte, vous êtes le responsable de l'APF dans les Alpes du Sud. Bonjour.
Bonjour.
Également à nos côtés, il y a Camille, vous êtes infirmière au sein de l'APF.
Bonjour.
Pour en parler avec nous, vous êtes plusieurs à nos côtés et merci d'avoir accepté l'invitation d'Alpe 1. Il y a Laurent, il y a Françoise, il y a Philippe et il y a Julien. Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Je vais peut-être préciser un petit peu ce qui a été dit par la secrétaire d'État. Avec cette question, est-ce que la société a mûri autour de l'assistance sexuelle pour les personnes handicapées? En tout cas, Sophie Cluzel se dit très favorable à ce qu'on puisse accompagner la vie intime, affective et sexuelle des personnes handicapées. Elle a donc saisi le CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique sur ce sujet. Il faut savoir qu'en 2012, le CCNE avait déjà donné un avis qui était défavorable. Cédric Carotte, aujourd'hui, quelle est la situation en France? On sait qu'il y a certains pays à l'étranger, j'ai quelques exemples, qui justement autorisent l'assistance sexuelle pour les personnes handicapées. Il y a notamment la Suisse. En France, quelle est la situation?
Alors, en France, l'assistant sexuel n'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est la mise en relation, qu'on appelle du proxénétisme, donc accompagner une personne handicapée à l'étranger ou voir quelqu'un, c'est illégal. Et ce qui est aussi pénalement répréhendé, c'est l'échange d'argent et le client. Mais l'assistance sexuelle en lui-même n'est pas illégale. Mais du coup, ça le rend pratiquement impossible, ou en tout cas, ça le rend caché. Puisque si on peut pas faire de mise en relation, si le client est pénalisé, voilà, ça le rend impossible. Mais l'acte en lui-même, l'assistance sexuelle en lui-même, ne l'est pas.
Il y a une association qui existe depuis 2014, c'est l'association APAS, c'est l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, qui, en fait, forme des personnes justement à l'accompagnement sexuel. Il y a à peu près 80 personnes en France hein, qui ont suivi cette formation. Est-ce qu'il y en a dans les Alpes du Sud, dans les Hautes-Alpes ou dans les Alpes d'Haute-Provence? Alors Julien?
J'ai fait une recherche sur ça. Il n'y a pas d'antenne sur le 05. D'accord. C'est surtout vers Lyon, vers Toulouse, dans les grandes villes. Mais ils m'ont dit que si un jour il y avait possibilité d'avoir une antenne dans le 05, je pourrais en bénéficier si je refais la démarche.
Camille, je me tourne vers vous. Vous qui êtes infirmière au sein de l'APF, pourquoi c'est important dans la vie d'une personne et d'une personne handicapée l'accompagnement sexuel?
Il faut quand même se rendre compte que voilà, on a des personnes ici qui ont des difficultés pour ne serait-ce déjà pour se toucher, pour se découvrir, pour rencontrer les autres. Donc on a des personnes qui sont en très grosse souffrance, qui créent même des moments d'angoisse et de dépression parce que ils n'ont pas accès à la sexualité, mais aussi, je dirais plus, à l'affectivité et à la sensualité. C'est-à-dire que peut-être que si on autorisait l'assistanat sexuel, ça autoriserait à ces personnes en situation de handicap déjà de découvrir leur propre corps et de pouvoir aussi rentrer en relation avec quelqu'un d'autre. Parce que là, tout est mélangé, en fait, entre la sensualité, le désir sexuel, et tout est confus pour eux, en fait.
Et quand on vous dit que l'accompagnement sexuel est une forme de prostitution?
Pour moi, c'est pas vraiment de la prostitution, c'est un accompagnement. Il faut quand même différencier l'assistanat sexuel qui est en fait, ce sont des gens qui sont formés pour aider les personnes à mettre des mots sur leur sexualité, à mettre des mots sur leurs sentiments, à mettre des mots sur leur affectivité. Ce sont des gens qui sont formés, donc on y trouve des gens qui sont parfois dans le soin. Il y a parfois, c'est vrai, des prostituées parce que voilà, c'est ouvert à beaucoup de personnes. Je pense pas qu'on puisse mélanger les deux. Ouais.
Cédric Carotte, vous avez un avis sur cette question, l'accompagnement sexuel, est-ce de la prostitution?
Pour moi, non, pas du tout. La réponse, elle est simple, c'est que sur la prostitution, on est à une réponse, à une pulsion immédiate. Bon, je vais le formuler comme ça, voilà. Que sur l'assistance sexuelle, on est sur des choses différentes, comme le disait très bien Camille. C'est des gens, des professionnels qui vont être formés, mais à de la sensibilité, à découvrir son corps, à aider la personne handicapée, si elle le peut, à une autonomie sexuelle, à pallier une incapacité. Françoise le dira peut-être tout à l'heure, mais elle ne peut pas bouger les membres supérieurs. Donc voilà, rien que se caresser, ou c'est juste pas possible pour elle. Donc l'autosatisfaction, par exemple, elle a besoin d'un coup de pouce pour mettre en place un jouet sexuel, par exemple. Donc pour moi, on est vraiment sur, comme un fauteuil roulant, pallier à une incapacité. Je ne peux pas le faire tout seul, donc on va m'aider à le faire. Pour moi, c'est pas de la prostitution.
Julien, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet ?
Je ne peux pas le faire tout seul. Alors, pour les yeux de la loi, je n'ai pas droit de vivre ça. Pour calmer tout le monde, ils disent « Vous êtes handicapé, vous êtes en cécité, vous n'avez pas le droit de vivre une sexualité épanouie. » Et ça s'arrête là.
Vous lancez le sujet, le Haut Conseil à l'égalité a donné un avis immédiatement après la déclaration de Sophie Cluzel. Le Haut Conseil à l'égalité rejette la proposition du gouvernement. Et là, je vais le citer. Légaliser l'achat de services sexuels serait contraire à notre législation contre l'achat de prostitution. Poser comme principe qu'il y ait une sexualité spécifique des personnes handicapées qui réclament une réponse spécifique, c'est une erreur. Et cela conduit à la ghettoisation du handicap. Handicap. Je vais me tourner vers vous, Laurent, Françoise, Philippe et Julien. Quand on vous dit ça aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, on veut vous apporter une réponse spécifique, mais non, on va ghettoiser le handicap. Comment vous réagissez à cette déclaration ? Alors, Laurent, dites-moi, ghettoiser le handicap.
On n'est pas ghettoisé parce qu'on peut aussi sortir et tout, mais en même temps, c'est en mettant aussi des barrières parce que. Moi, je suis une personne handicapée, et on m'aide pour tous les actes de la vie, la sexualité, en fait partie pleinement aussi.
Françoise, on entend très peu de femmes, justement, s'exprimer sur ce sujet.
Comme l'a dit M. Carotte, ce papa m'a servi à des mains.
Donc, vous avez besoin d'un accompagnement, et la sexualité fait partie de la vie de tout un chacun.
Oui. Mais moi, je sais que je voudrais toucher un homme, mais je peux pas. Mais comment faire pour le toucher?
Voilà, c'est la question que l'on entend, Cédric, que l'on entend Camille également, c'est comment faire quand on ne peut pas. Aujourd'hui, on a l'impression d'être face à un véritable tabou, en fait.
Partout ailleurs, on est aidé dans notre vie, quoi, et pas là. Et ça, c'est incompréhensible, enfin, j'ai mal à comprendre.
Alors, je risque peut-être de vous poser une question indiscrète, et si elle est indiscrète, ne répondez pas. Mais justement, Julien, tout à l'heure, vous disiez, j'ai fait des recherches, moi, à un moment. Finalement, il n'y a rien qui est mis en place dans les Alpes du Sud. Est-ce que vous avez été contraint, peut-être un jour, de partir sur l'étranger, justement ?
Mon père voulait m'emmener, mais j'ai dit que non. Me déplacer en Irlande, en Hollande, pardon, c'était trop cher. Puis pour une demi-journée, je voyais pas l'intérêt d'aller là-bas. Juste pour vivre quelque chose, peut-être de magique, une journée, ou peut-être une nuit, mais je voyais pas l'intérêt de dépenser des milliers de cents pour arriver sur place et pour pas être sûr de voir la personne. Ce qui m'a freiné, c'est la barrière de la langue, même si ils sont formé pour parler un minimum français, c'est ça passe ou ça casse si vous allez là-bas. C'est soit vous avez la chance de vivre quelque chose et c'est bien, soit vous rencontrez la personne et vous partagez juste un verre parce que la personne n'est pas intéressée par votre profil, quoi. Je pouvais pas me permettre à l'époque de prendre la voiture et d'être une nouvelle fois frustré pour pas être allé jusqu'au bout. Quoi.
Philippe, justement, sur ce qui vient d'être dit, notamment par Julien, moi je ne voulais pas être face à de la frustration.
Je suis outré, confus. Je comprends pas comment une personne handicapée comme moi n'aurait pas le droit d'avoir une relation affective comme tous les autres.
Finalement, en fait, ce que le gouvernement annonce aujourd'hui, c'est plutôt un pas en avant, mais il faut vraiment que ça avance, Françoise.
Moi, je comprends pas pourquoi la vie est comme ça contre nous.
Vous comprenez pas pourquoi la vie est contre vous.
Oui, c'est ça.
Vous attendez aujourd'hui que le gouvernement comprenne en tout cas votre message et qu'il avance dans ce sujet.
Ça serait formidable.
Camille, j'aimerais vous poser cette question et je réagis par rapport à ce qui a été dit par Julien quand vous parliez justement de votre expérience avec votre père. Ça contraint aujourd'hui les familles à devoir apporter une réponse, à les mettre dans une situation qui est complètement ubuesque aussi.
Pas tout le monde a une chance d'avoir une famille aussi à l'écoute. Ce qui est compliqué pour nos résidents, c'est aussi de parler de leur sexualité et est-ce qu'ils doivent en parler à leur famille. Pour certains, c'est très compliqué de parler de sa sexualité à sa mère ou à son père. Et nous, on voit bien qu'on n'est pas obligé de parler de notre sexualité à nos propres parents. Et sachant que nous, si nous qui faisons le pas de les amener aller à Amsterdam ou en Belgique, dans les textes de loi, c'est formellement interdit. On peut passer pour des proxénètes, on peut avoir de la prison, une amende énorme et tout. Donc c'est vraiment très compliqué. Et je crois que la sexualité, ça fait partie de l'intime. Et ouais, comme je dis, voilà, il n'y a pas toutes les familles qui seront ouvertes à ça. Et
dans votre quotidien de professionnel, vous êtes aussi confrontée à certaines demandes visant la sexualité des personnes handicapées.
On est tous confrontés donc à la sexualité déjà par les actes de la vie quotidienne, parce que nous, on a accès à leur corps. Donc pour eux, ça peut être interprété comme quelque chose de l'ordre du sensuel, alors que pas du tout, parce que nous, on est vraiment dans de l'acte soignant. Donc ça peut mettre à mal les soignants, qui n'ont pas forcément envie d'avoir affaire aussi à l'intimité des résidents. Et la limite entre tout ça, c'est assez compliqué nous en tant que, pour se positionner. Enfin, moi, je serais heureuse de savoir que nos résidents, ils aient la possibilité d'avoir, de pouvoir avoir leur intimité à eux. C'est assez compliqué sur une structure en fait.
Quelqu'un qui fantasme est plus dangereux à la longue que... Par rapport aux médicaments, tout ça, par rapport à
ce que vous dites, Laurent, c'est qu'à force de fantasmer, on tombe dans une frustration. La frustration est dangereuse pour l'être humain. Une psychose, vous, Julien?
Ouais. À force de fantasmer sur une personne en particulier, on risque de se mettre dans un tourbillon intérieur qui peut être dangereux pour soi, pour les autres, parce que si on reste bloqué sur ce fantasme, on n'a plus possibilité d'avancer. On risque de tomber dans une grosse dépression nerveuse. On peut fantasmer, pas à outrance.
Cédric Carotte, peut-être pour conclure sur ce sujet, on sent bien que là, on n'est pas face à un débat qui est gratuit, qui est léger. C'est vraiment quelque chose qui génère aujourd'hui de la souffrance et qu'il faut prendre en compte.
Dans le premier avis qu'on vient d'avoir, je crois que ce qu'ils n'ont pas en tête, c'est que si les personnes handicapées ont une sexualité qui est différente, ils n'ont pas accès à leur corps, ils n'ont pas accès à un certain nombre d'actes, gestes de la vie de tous les jours. Donc pour moi, c'est plutôt une exception à la loi. Et cette exception, si on regarde bien, elle existe déjà. Aujourd'hui, la consommation de drogue, l'achat de drogue est interdite en France. Pourtant, il y a des salles de shoot qui existent, puisqu'on est sur de la prévention, sur de l'accompagnement à la santé, sur de l'addiction. Et pourquoi pas créer des espaces ou en tout cas penser l'assistance sexuelle de cette façon-là. Et quand on parle aussi d'assistance sexuelle, je trouve qu'on fait vite l'amalgame. On parle tout le temps de l'acte sexuel. Camille l'a très bien dit, et les résidents l'ont très bien dit, il y a plein d'autres choses autour de la sexualité. On a tous une sexualité différente, et elle se vit de manière différente. On pourrait parler de câlinothérapie, de sensualité, voilà, ou d'auto-satisfaction, mais il y a plein de choses, et Françoise le disait très bien, rien que pour pouvoir se masturber, elle a besoin d'aide, et elle a le droit de le faire si elle le souhaite.
Julien?
Ou de toucher un homme, comme disait Françoise, ne serait-ce qu'avoir une femme nue. à côté de moi, je demande pas de... Excuse-moi, je rigole pour détendre un peu la chose, mais je demande pas une pénétration absolument. On doit pouvoir être capable d'avoir des aidants sexuels, pas tous les jours parce que c'est un coup, mais régulièrement, peut-être tous les 2 mois ou tous les 3 mois, je sais pas, qui passent dans les institutions. Si un jour on a une possibilité d'avoir des aidants sexuels, ça créerait moins de tension entre le personnel soignant et le résident. Parce que le résident, même s'il dit à son cerveau de pas réagir sur telle et telle chose, c'est difficile. On reste des hommes à part entière. C'est encore plus frustrant quand vous êtes en situation de handicap et que vous ressentez tout. Votre corps. Et vous, vous dites mentalement, vous dites « Non, t'as besoin de ça, mais je peux pas te le donner. Laisse-moi tranquille. »
Philippe.
Avant que tous les actes sexuels, j'aimerais avoir une relation intime, affective.
Ce que je comprends, c'est que ça va au-delà de la relation sexuelle, c'est juste une relation aussi d'intimité aussi que vous demandez.
Une relation affective.
Françoise ?
Je voudrais dire que ça avance la sexualité.
Que ça avance dans ce sujet, dans la sexualité.
Moi, je trouve que c'est bien qu'on se pose la question. C'est la semaine de la Saint-Valentin.
On fait tout ça pour que le gouvernement change d'idée.
Change son fusil d'épaule, Julien.
Et son cerveau.
Camille, peut-être un dernier mot sur ce sujet, sur tout ce qui a été dit.
Ce qui est très important pour une personne qui est en fauteuil, qui est en situation de handicap, c'est déjà se sentir désirée et se sentir désirant. C'est très important pour le cheminement de l'affectivité, pour se sentir être et accepter. Et justement, je trouve que l'assistanat, c'est pas une façon de les ghettoiser, mais au contraire, c'est une façon aussi de les inclure dans quelque chose qui pour nous peut-être est banal, c'est-à-dire que faire un câlin à nos enfants, à notre mari, à notre compagnon, c'est un acte qui est très facile pour nous. Et je me dis que déjà qu'un fauteuil, ça entrave énormément, ne serait-ce qu'une étreinte, sans qu'elle soit forcément sexuelle.
Cédric Carotte, alors on va finir avec vous.
Derrière moi, ce que Laurent disait et que j'ai entendu très fort, c'est qu'il y a aussi quelque chose autour de la dignité. C'est-à-dire que j'ai le droit à avoir une vie sexuelle comme tout le monde.
En fait, on vit dans une société aussi qui prône beaucoup le pornographique et tout. Et moi, je trouve que là, on est en train d'avoir une belle leçon d'humilité par rapport à tout ça. Et qu'en effet, la sexualité, c'est pas que ce que nous, on veut bien les valides mettre là-dedans. Je pense qu'il y a vraiment des valeurs. Ouais, je trouve que voilà, c'est une belle leçon pour nous aussi.
Mais écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir accueilli ce matin au sein de l'APF. Je remercie donc Cédric Carotte, vous êtes le responsable donc de l'APF dans les Alpes du Sud. Camille, infirmière, merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Françoise, merci beaucoup Philippe et merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous en tout cas pour parler de ce sujet. Je rappelle donc l'assistance sexuelle des personnes handicapées. Merci et n'oubliez pas donc ce podcast qui sera mis dans quelques instants sur alpe1.com avec une version longue. Merci à vous.